Le premier, c'est dans le psaume 133. Et nous allons lire les trois versets de ce psaume 133. Là aussi, c'est en route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères, et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alors nous allons nous arrêter un peu sur ce thème. Je ne sais pas si ce matin en arrivant, nous nous sommes dit, eh bien, ça va être un sujet de bénédiction que de vivre ce temps avec les frères. Alors, eh bien, je vous propose d'aller dans l'Évangile et de lire dans l'Évangile de Marc au chapitre, au chapitre 4, les versets 31 à 35. Marc, chapitre 3, verset 31. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, nous allons lire les versets 11 à 18. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 11. Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit à Dieu, « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. » Il dit aussi, « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu, à tous égards, semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Alors si nous disons que l'Église est le peuple de Dieu, son corps, sa famille, comment réagissons-nous? Est-ce important pour nous? La notion de frère et sœur revêt-elle une importance à nos yeux? Comment cela se concrétise-t-il dans nos relations? Alors cette expression, les frères, est devenue quand même bien banale. Comme tant d'autres, c'est vrai. Et cela fait perdre son sens profond, je pense, si bien que la réalité est devenue, elle aussi, banale. Nos relations risquent fort de l'être aussi. Alors j'espère que ce retour sur ce que la Bible dit au sujet de la fraternité nous permettra de redécouvrir un peu plus et de vivre une dimension si riche et si enrichissante pour nous. Mais d'abord, arrêtons-nous sur cette mentalité actuelle que nous connaissons. Quelle est-elle sur ce sujet de la fraternité? Et d'abord, peut-être d'une manière plus large, sur la relation aux autres. Une étude a été faite sur la manière de réagir chez les Japonais et chez les Américains, mais je suis sûr qu'on pourrait citer les Français à la place des Américains, dans ce domaine en tout cas. La question était, comment les gens se consolent-ils au milieu des difficultés? Les Japonais répondaient presque toujours, je pense à ma famille, j'imagine qu'elle est avec moi. Tandis que la réponse des Américains était, je peux surmonter cette épreuve si je redouble d'efforts. Comme les Américains, je pense que nous vivons dans une culture qui met davantage l'accent sur l'individu que sur le groupe, la famille, qu'elle soit physique, spirituelle. Comment vivons-nous la vie de l'Église? Sous l'aspect individuel ou communautaire? Petit test. Bon. Que préférons-nous spontanément comme ça? Que les rangées de chaises soient droites ou en épi? Il y a derrière cet aspect matériel une priorité dans notre conception des relations, je crois. Est-ce important d'arriver avant le culte, avant même bien le début du culte, et aimez-vous rester après? Ou arrivez-vous juste à l'heure pour repartir rapidement dès la fin du culte? Pour quel sujet priez-vous? Est-ce que les sujets relatifs à mes besoins remplissent-ils ma prière? Ou y a-t-il une place pour ma famille biologique, pour ma famille spirituelle proche, locale? Et même éloigné. Est-ce que quelquefois je prie dans le sens inverse et que même j'en arrive à ne pas prier pour mes besoins personnels? Cela révèle une priorité. Est-ce que je ne transforme pas en fait notre Père qui est dans les cieux en mon Père qui est dans les cieux? Autre point, comment comprenons-nous quand nous sommes invités à nous examiner avant de prendre le repas de la Sainte-Cène? Comment comprenons-nous cet examen? Par rapport à quel point? Probablement, je le devine, en pensant à des péchés personnels, éventuels. Mais Paul parle de notre rapport au corps de Christ. Dans ce passage de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. L'interpellation est, sommes-nous conscients que nous partageons ce repas avec nos frères et sœurs et que nous sommes unis grâce à l'œuvre de Christ sur la croix? Et Paul dit, si ce n'est pas le cas, ne prenons pas ce repas. Comment nous rappelons-nous la faute d'Acan? Déjà, c'est orienté. Dans Josué chapitre 7, comme étant une faute individuelle ou communautaire, liée aux autres ou individuelle. Notre approche de ce texte est individualiste, mais ce n'est pas la réponse de Dieu, ce n'est pas l'approche de Dieu. Il est dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Acan prit pour lui certains de ces objets. C'est lui le fautif. Mais l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. C'est étonnant. C'est l'ensemble des Israélites et non l'individu, même si c'est lui qui est fautif, qui est considéré par Dieu. Toutes ces situations, il y en a d'autres, c'est sûr, même matérielles, révèlent une priorité dans notre mentalité. Soit c'est l'individu qui prime, la notion de frère alors existe bien peu, soit c'est le groupe, le corps, la famille, les autres. Et nous sommes dans une société de l'individualisme qui détermine trop souvent notre approche du corps de Christ. Le « moi » est prioritaire par rapport à la communauté. La notion de frère a perdu de son importance. L'important, c'est de vivre une relation personnelle avec Dieu. Je viens au culte pour ça. Et c'est pour cela, en fait, que je ne vis pas plus dans l'Église et que même beaucoup de chrétiens restent isolés. C'est la relation avec Dieu qui est de l'essentiel. Nous ne sommes pas protestants pour rien quand même. Mais en fait, nous oublions ce que Dieu veut. Quelle est la pensée de Dieu ? Alors d'abord, eh bien, l'histoire du mot « frère », je la trouve très significative. Ce mot est constitué de deux parties et pourrait se traduire « sorti de la matrice ». Frère, sorti de la matrice. Son frère, donc, ceux qui sont nés d'une même mère, d'un même créateur. Le mot « frère » employé dans le Nouveau Testament, surtout, est générique, certainement. Mais avant tout, il me semble qu'il unit tous ceux, hommes et femmes, qui ont été conçus du même Père. Alors, quand est-ce qu'il est question du mot « sœur » ? Eh bien, souvent, c'est quand il est employé surtout pour parler des sœurs de Jésus, mais aussi pour parler des liens humains dans d'autres familles. Les frères, donc, sont ceux qui ont le même sang, le même résus. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par le sang, lui aussi, le Seigneur, de la même manière, a partagé leurs conditions. Son frère, ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Christ. Il a donné son sang. Il est mort à notre place. Et il nous permet ainsi d'être réconciliés avec Dieu, notre Père, qui nous fait naître à sa vie. C'est bien cela qui fait des êtres humains des frères et rien d'autre que cela. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit au chapitre 5, « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Tout cela est l'œuvre de Dieu » qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Voilà l'œuvre de Christ qui est essentielle pour que nous formions une famille de frères, sortis de la même matrice, que de le même Créateur. Alors, une des conséquences est que cette relation transcende les différences sociales, raciales. L'apôtre Paul écrit alors, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. » Unis à Jésus-Christ, sortis de la même matrice, vous êtes tous un. Galates chapitre 3. Oui, nous sommes unis les uns aux autres parce que nous sommes sortis de la même matrice, nés de notre Père céleste. Et ce lien est plus fort que tout. Plus fort que tout, vraiment ? La position de Jésus est sans équivoque à ce sujet. Elle peut nous paraître choquante même. La mère de Jésus et ses frères et sœurs viennent le rencontrer. Et Jésus répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Quel privilège d'être appelé frère, sœur de Jésus. Il est devenu notre frère dans le sens qu'il a pris notre condition humaine. C'est l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 qui dit « Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. » Malgré ce que nous avons été, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous serons, le Seigneur nous appelle devant les autorités spirituelles, ses frères. La notion de frère, dit Jésus, est attachée au fait de suivre la volonté du Seigneur. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère. C'est pour cela que ceux qui enseignent une autre doctrine que celle de l'Évangile sont appelés faux frères, ainsi que ceux qui s'opposent aux chrétiens, comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Malheureusement, tous ceux qui se rattachent à une église ne sont pas des frères, parce qu'ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Alors ne croyons pas dans ce récit que Jésus enseigne d'abandonner la responsabilité vis-à-vis de la famille biologique. Il y a d'autres textes qui insistent pour que nous soyons responsables de ceux avec qui nous vivons, de ceux que le Seigneur nous a donnés. Mais Jésus, à un autre moment également, montre que les liens spirituels sont selon lui une priorité par rapport aux liens charnels. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10. Ce n'est donc pas l'un ou l'autre en termes d'opposition, mais Jésus montre par là l'importance essentielle des frères dans la foi. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est lié automatiquement à la dimension fraternelle, aux relations entre frères. Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, dit l'apôtre Jean, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors voilà, quelques interrogations pour terminer au sujet de la réalité pour vivre cette dimension de frères et sœurs dans l'Église. Comment avons-nous manifesté cette semaine passée ce lien avec les frères et sœurs de l'Église, qu'elles soient locales ou même plus éloignées? Si nous avons été blessés ou contrariés par une personne de l'Église, notre réaction a-t-elle été « Cette personne m'a fait du mal, alors je me sépare de l'Église ?» Alors l'individu prédomine au détriment de l'ensemble qui facilement disparaît. Le problème est que je considère l'amour que je manifeste à travers ce que je fais. Alors qu'avant tout, cela devrait se vivre à travers la manière dont je considère l'autre. Ma réaction sera bien différente si je considère, par exemple, Daniel, comme il y en a plusieurs, c'est plus facile, comme un membre de mon club, de mon église, ou comme un frère. Ma salutation, déjà, sera différente. Je pense à l'histoire des deux fils, la parabole des deux fils. Le fils aîné parle des liens inexistants qui existent entre deux avec son frère cadet parce qu'il est jaloux. Leur relation est perturbée par la jalousie. Mais en amont, c'est la relation avec son père qui est faussée. Et là aussi, parce qu'elle est basée sur le faire, sur les œuvres, sur une attitude légaliste. Il y a aussi l'histoire de Caïn qui rejoint cette histoire de la parabole des deux fils. Caïn qui finit par tuer son jeune frère Abel, et cela parle aussi de jalousie. Mais sa réponse à Dieu est-elle justifiée quand il rétorque « Suis-je le gardien de mon frère ?» Certainement pas. La notion de fraternité comporte toujours la dimension de la solidarité et de la responsabilité mutuelle. Je pense à l'histoire de cette fillette thaïlandaise. qui portait sur son dos son petit frère. Alors un missionnaire lui demande si son fardeau n'est pas trop lourd. Et elle de répondre, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Si je ne supporte pas certaines personnes, est-ce que je les considère vraiment comme des frères? Il peut y avoir aussi le problème d'une mauvaise compréhension de cette responsabilité qui risque de connaître des tensions et des conflits lorsque je conçois ce lien de fraternité par rapport à moi. Les frères doivent assumer leur devoir d'amour en répondant à mes désirs, à mes besoins. Mais avant tout, ce ne sont pas les autres qui me sont redevables, c'est moi qui dois l'être envers eux en priorité. Paul donne la priorité absolue quand il dit aux chrétiens de l'église de Rome, chapitre 13, « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Le risque est bien de créer un nouveau commandement. Aimez-moi les uns les autres. Je peux utiliser les autres, les frères, pour que je me sente mieux dans ma peau. C'est une stratégie qui favorise l'individualisme, mais qui inverse le plan de Dieu. Je suis appelé avant tout à chercher à aimer les frères et sœurs. Paul montre également qu'on ne doit pas abuser de cette nouvelle dimension fraternelle quand il écrit à Timothée que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés. Voilà. Être frère et sœur est donc indissociable de l'humilité et de la notion de service pour l'épanouissement des autres. Des autres en premier lieu. C'est ce que j'aimerais vivre de plus en plus. Alors, le fait de prendre conscience de ce lien surnaturel qui unit ceux qui ont Dieu pour Père et Jésus-Christ comme frère, et le fait de le vivre concrètement, c'est une bénédiction profonde. C'est le psaume 133 qui parle de cette réalité. Oh, quel plaisir c'est pour des frères, et quel bonheur que d'être ensemble. Et le psalmiste va ajouter à ce plaisir la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction rejaillit de plus en plus loin, de la montagne de l'Hermon, tout au nord, qui est boisée, qui est riche en végétation, eh bien, cette rosée descend jusqu'au mont Sion, une colline, et de plus qui est bien aride. L'unité dans la fraternité est une bénédiction en elle-même et une source de bénédiction si nous le vivons de plus en plus. Voilà, eh bien, je vous propose un temps de réflexion intérieure pour que eh bien, nous puissions repenser à cette dimension si importante aux yeux de Dieu. Nous voulons demander à Dieu de nous faire prendre conscience de cela et de nous aider à la vivre plus intensément.